Donc, la première épître de Paul aux Corinthiens, on va lire un simple verset. 1 Corinthiens 3, verset 6. Ça va apparaître. Voilà. Ah oui, c'est plus long dans ma truc. Bon. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais celui qui arrose, ni celui qui arrose, pardon, mais Dieu qui fait croître. Je pense que ça vous est arrivé d'être confronté au découragement, lorsque justement, malgré nos efforts, eh bien, les résultats de notre travail ne sont pas là, ou ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de notre attente. Soit, je dirais, dans... bien, le témoignage personnel que nous avons à rendre. Pour nous, serviteurs de Dieu également, ça peut être eh bien, dans le cadre de l'édification. On donne des paroles de Dieu, on se prépare, et puis, eh bien, des fois, ce n'est pas là, hein, bien sûr. Dans le domaine de l'évangélisation, de nos activités, soit également dans notre témoignage personnel, auprès des nôtres, de notre entourage. On prie, on parle. C'est-à-dire qu'on témoigne, tout simplement, on le fait avec foi, avec amour, parce que eh bien, ce que nous voulons et ce que nous désirons, c'est de les voir eux aussi appartenir au Seigneur. Et puis, eh bien, ce n'est pas à la hauteur de notre attente. Alors nous demandons alors si eh bien, nous sommes bien justement à notre place, ou alors si nous faisons tout ce qui convient eh bien, de faire au nom du Seigneur. Par contre, nous avons souvent tendance à mettre en avant quelque chose de particulier. Déjà, les personnes. Ah, si c'était un tel. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui. Alors, mais les personnes, les moyens, les méthodes, lorsqu'il y a du succès, on dit, ah, heureusement que c'était le frère un tel, heureusement que, eh bien, on a fait de telle manière. Vous voyez, il y a donc deux comportements, deux sortes de comportements. Ceux qui ne se remettent peut-être jamais en question, ou très peu, qui vont donc rejeter la cause du manque de résultats sur les circonstances ou même sur les autres. Et puis il y a ceux qui se culpabilisent, je dirais à l'extrême, qui pensent que les échecs leur sont toujours imputables. Je savais que je ne serais pas à la hauteur. Je savais parce que moi, on ne m'écoute jamais. Vous voyez ? Donc c'est toujours leur faute. Alors, c'est pour donner un éclairage sur ce sujet que j'ai choisi de vous en parler. J'aimerais rappelez d'abord que ce message de la Bible, qui nous donne, je dirais, en exemple le Seigneur Jésus lui-même, eh bien, c'est une parole qui nous est adressée personnellement, individuellement, aussi bien que collectivement. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, Hébreux 12, verset 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça a été facile pour le Seigneur parce que c'était le Seigneur. Et non. Et où est-ce qu'il a subi le plus de refus? C'est auprès des siens. Son village. Eh oui. Alors il y a également des temps et des lieux dans lesquels Dieu agit plus que d'autres. Il y a des personnes à qui le Seigneur confie plus qu'à d'autres. Il est le maître encore là. Hein, il fait ce qu'il veut. OK? Mais quelles que soient les situations, eh bien, il est bon de se rappeler cette grande vérité, c'est que le résultat de tout travail pour le royaume de Dieu, ça appartient à Dieu. Ça appartient au Seigneur. C'est lui qui opère par le Saint-Esprit. Amen. J'ai beau essayer d'être convaincant quelquefois, hein, je fais tout ce qu'il faut, ça passe pas. Et puis, il y a des fois, eh bien, je ne vais pas mettre autant de force pour être convaincant. Et puis, ça se passe comme ça. Il y a certaines églises où je suis passé. Les frères qui étaient passés avant ont fait tout ce qu'il fallait. Hein. Il y a eu des temps de jeûne, il y a eu des temps de préparation avant une mission. Et puis ça stagnait, ça ne marchait pas. Et puis, je suis arrivé derrière, je me mets pas en avant et ce n'est pas le but, ne regardez pas ça. Mais moi, je n'ai rien fait de plus que les autres. Je leur ai dit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'y prends?
Oh, il dit, moi, comme ça, ben, tu fais comme moi. Eh bien oui. Et puis, on a vécu des temps de réveil, on a vécu des temps d'évangélisation formidables. Un frère me disait que lui aussi, il était à l'époque dans l'Est, puis il était dans le Sud, et quand il est remonté pour eh bien, répondre à l'invitation du pasteur qui l'avait remplacé, mais il y avait eu deux, trois pasteurs entre-temps, et un soir, il lui dit, écoute, on va dans telle ville, tu prépares un message d'évangélisation. Ah bon, tu crois? Pourquoi? Il lui dit, mais pourquoi? Ben parce que cette ville, tu sais, ça fait un moment qu'on essaye de percer, qu'on essaye eh bien d'évangéliser, mais ça a toujours été très, très poussif. Il a dit, si, prépare, tu verras. Et puis, quand il a été là-bas, pendant la réunion, il était réjoui de voir eh bien toutes ces âmes nouvelles qui étaient là, parce que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, eh bien, les choses se mettent en place. Hein, les choses vont de l'avant. En tout cas, quelles que soient les situations, il est bon de se rappeler de cette grande, grande vérité, c'est que le résultat, hein, de notre travail pour le royaume de Dieu, ça appartient à Dieu et c'est Dieu qui opère comme il veut. Nous, eh bien, nous ne sommes que des serviteurs que le Seigneur a choisis et à qui il confie tout simplement ses missions en fonction de sa propre volonté. Réalisez une chose, c'est que Dieu ne se trompera jamais. Nous, nous pouvons nous tromper. Amen. Nous pouvons faire fausse route, faire de mauvais choix. Mais lui ne se trompera jamais. Donc notre seule préoccupation, eh bien, ça doit être de plaire à Dieu, tout simplement. C'est lui qui nous a appelés par sa grâce à le servir. Et également, eh bien, nous devons rester fidèles, fidèles à la tâche qu'il nous confie. Là, il faut se donner les moyens. Amen. Donc le faire dans la joie, non pas dans la peine, parce que servir le Seigneur, c'est la plus belle des choses. Amen. La paix qu'il nous adresse est une vocation. Et c'est avec joie et avec bonheur, eh bien, même avec crainte quelquefois, mais la crainte de se tromper, mais le faire avec joie et avec bonheur. Amen. Et ça, dans les bons comme dans les mauvais jours. Eh oui. Dans les mauvais jours aussi. Même si on est rejeté aussi. Parce que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Ce n'est pas pour n'importe qui. Amen. Alors, lorsque nous sommes conscients de cette loi du royaume de Dieu, eh bien, nous échappons au moins à deux dangers. J'en ai noté deux. Certainement, il doit y en avoir d'autres, mais les deux qui me sont venus à l'esprit. Premièrement, l'orgueil de la réussite. Ça nous guette, hein? Tant de gens se glorifient ou élèvent anormalement d'autres personnes à cause de leur succès. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui aujourd'hui est auprès du Seigneur me disait, tu sais Bernard, quand j'entends que sur tel champ, eh bien, ça marche, il y a un réveil, et surtout quand eh bien, paraît le nom du serviteur de Dieu, que l'on élève, me dit presque comme s'il était Dieu, il me dit, moi je tremble et je me tiens à genoux pour ce frère. N'oublions pas que c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas nous parce qu'on est supérieur à un autre. Vous savez, comme je dis souvent, qu'est-ce qui rafraîchit, le robinet ou l'eau qui coule du robinet? Qu'est-ce qui désaltère? C'est l'eau. D'accord? Le Seigneur peut fermer le robinet. Donc, soyons ces serviteurs-là. En réalisant que, eh bien, sans lui, on n'est rien. On ne peut rien faire de valable. Amen. La deuxième chose, c'est le découragement quand il semble que nous travaillons en vain. Hein, ça arrive, et ça arrivera encore. Combien de jugements injustes ont accablé ceux qui, malgré leurs efforts, n'ont pas obtenu le résultat escompté. Pourtant, j'avais misé là-dessus. Ah, j'y croyais. Eh oui. Et puis, ce n'est pas là. Et là, on peut être pris de découragement. Baisser les bras, c'est toujours pareil, ça ne changera pas. Moi, je crois que ça peut changer. Déjà par notre attitude. Amen. De plus, lorsque nous avons compris que le résultat ou les résultats appartiennent au maître de l'ouvrage, eh bien, cela produit en nous des sentiments plus nobles. Moi, j'ai fait ce que je devais faire.
D'accord? Après, le reste appartient à Dieu. Hein? La foi dans celui qui veille à l'accomplissement dans sa parole, la conscience paisible de celui qui a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait faire, parce qu'au-delà, c'est le miracle, et ça, nous, on ne peut pas les faire. Hein? Eh bien, ça mène de l'humilité. Hein? L'humilité de celui qui dit, eh bien, je ne dépends que de toi, Seigneur, je ne dépends que de ta grâce, que de ta volonté. Ça t'appartient, Seigneur. Rappelons également cette vérité de la parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Elle est là, bien sûr. Marc, chapitre 4, verset 26, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, pardon. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Alléluia. Qu'est-ce qui fait le jardinier ou l'agriculteur? Il sème, il arrose, d'abord il a remué la terre, il a enlevé les pierres et les vieilles racines et tout ce que vous voulez, les mauvaises herbes, etc. Et ensuite, eh bien, il attend. Il a mis l'engrais qu'il fallait, s'il fallait mettre de l'engrais. Enfin, il a fait tout ce qu'il fallait. Et ensuite, eh bien, il sème en disant, « Allez, à toi de pousser maintenant. » Et il attend. Il a la foi, hein, finalement. Eh bien, si vous avez fait du jardinage et que vous avez opéré ainsi, c'est que vous avez de la foi. Vous pouvez semer en disant, « Allez, maintenant, je vais me régaler. » Eh oui, dans quelques temps. Alors, c'est aussi ce que l'apôtre Jacques écrit, Jacques chapitre 5, verset 7. Il dit, « Soyez donc patients. » C'est ça qui nous manque. Hein? « Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière-saison. » On pourrait peut-être croire que nous n'avons rien d'autre à faire que de dormir en comptant sur Dieu. Comme le dit Salomon dans le psaume des degrés, il dit « En vain vous levez-vous, hein, le psaume 127, verset 2, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors reposez-vous. » C'est ça que ça veut dire. Non, dans notre part. Amen. On doit faire ce que Dieu attend de nous. S'il nous a confié une responsabilité, une tâche, un témoignage à donner, une parole à adresser à quelqu'un, il faut le faire. On prie, on se prépare, amen, et on s'attend tout simplement à ce que ce soit Dieu, Dieu qui fasse sa part. Comme quoi, on peut faire dire des choses à la Bible, à la parole de Dieu, hein, dire maintenant, allez, tu repose-toi sur Dieu, fais plus rien. Hein? Et non, la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, tu dois le faire. Amen. Et que si tu jettes ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu devrais le retrouver. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, eh bien, il ne faut pas prendre un texte, l'isoler, mais prendre la parole dans son ensemble, parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Écoutons également plutôt ces paroles de l'apôtre Paul, parce que le sont précieux, un précieux conseil pour nous, est destiné, on le sait déjà, à des serviteurs de Dieu, mais... Ça nous adressait aussi, bien sûr, à nous aujourd'hui. Hein, il se posait des questions sur l'avancement du royaume de Dieu. Et je crois que c'est la même chose pour nous. En quel temps sommes-nous? Alors, il dit, dans 2 Timothée 2, 6, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Vous voyez? Ce n'est pas en dormant. Et non. Ensuite, 2 Corinthiens 11, 27, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Et puis 2 Timothée 4, verset 1er. « Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Amen. Vous savez que celui à qui il est le plus donné, il sera également le plus demandé. Ne jalousez pas quelqu'un, hein, surtout. Que Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait à qui il donne. Soyez tout simplement réjouis de ce qu'il vous donne quelque chose à faire. Amen. Lorsque nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, eh bien, nous pouvons nous confier en lui pour le résultat. Comme l'Ecclésiaste le dit dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 12, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Amen. Dormez du sommeil du juste. Alléluia. Après avoir accompli tout ce que le Seigneur attend de vous, là vous vous reposez. Vous vous endormez tranquillement et vous vous reposez tout simplement avec confiance sur lui parce que c'est lui qui fait croître. Amen. C'est lui qui fait grandir. L'auteur de la lettre aux Hébreux rajoute, Hébreux 6, 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Et il a rendu et rendant encore tout simplement des services aux saints. Alléluia. Toujours quelque chose à faire. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des jours de gloire et de victoire également éclatante. Il y a des moments d'opposition, d'échec apparent. Ça, c'est la vie que nous vivons, bien sûr. Hein. Ce n'est pas toujours sur les sommets. C'est difficile d'y rester. Mais dans les vallées également, il y a du travail, il y a des choses à faire ensuite de pouvoir remonter vers les sommets. Il y a des Nazareths, vous savez, des endroits où le Seigneur lui-même ne peut pas faire grand-chose. Vous vous rappelez ? Eh oui. Mais l'important, c'est d'être fidèle dans le travail que notre Maître nous confie, comme il enseigne dans cette parabole, Matthieu chapitre 25, verset 14. Il dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, et que j'amasse, je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Que Dieu nous aide à lui être fidèle en toutes choses. Croyez pas ? Ça vaut le coup. Il ne demande pas l'impossible, parce que l'impossible, c'est lui qui va le faire. Quand je parle de l'impossible, c'est du miracle. Le miracle, c'est lui qui le fait. Sachons également qu'il ne demandera justement jamais l'impossible. Il faut le savoir. Amen. Le miracle, c'est lui. Est-ce qu'on l'appelle le Dieu du miracle? Est-ce qu'on le voit comme le Dieu miraculeux? C'est lui qui annonce des choses et sur sa parole, elle se réalise. Nous savons parce qu'il nous le dit
il restera fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses engagements. À nous d'avoir conscience de cela, à nous également, eh bien, de chercher tout simplement à lui plaire et à lui être fidèle. Il ne demande pas, je reviens, l'impossible. Impossible, ça veut dire je ne peux pas. C'est ça que ça veut dire. Mais il nous demande le possible, ce que nous pouvons faire. À nous à nous exécuter, à nous à lui faire confiance, à nous à aller sans crainte. Parce que s'il nous envoie, c'est qu'il nous a ouvert la porte. C'est qu'il nous a ouvert le chemin. Amen. Peut-être qu'il n'y aura pas le succès tout de suite, mais on aura fait ce qu'il fallait. Après, ça appartient au Seigneur. Nous, on prie. On arrose. Amen. Et c'est lui qui travaille. C'est lui qui, en fin de compte, eh bien, amène le résultat. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir encore éclairés, de nous avoir parlé. Merci de nous faire du bien, de nous fortifier les uns et les autres, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du rappel de ta parole pour ne pas nous décourager. Tu veux nous fortifier, tu le fais encore ce matin. Alors sois béni pour l'action de ton esprit et à toi la gloire. Amen. Amen. Amen.